Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais.
20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ».
Moi, je m'appelle Capucine, j'ai 20 ans.
Ah, merci.
Oui, c'est étonnant, hein, vraiment. Je suis en première année de master à Sciences Po et je viens de publier mon premier roman aux éditions Bellefond il y a un mois à peu près. Et c'est vraiment très cool. c'est une super expérience. J'avais absolument pas vu venir. Et en fait, ça s'est fait. J'ai envoyé mon manuscrit et puis tout s'est enchaîné, donc voilà, me voici. Et puis sinon pour le reste, je suis une grande passionnée de lecture, d'écriture, de théâtre, de cinéma. Je m'intéresse vraiment à tout ce qui touche à l'art.
Voilà. C'est ouf, bah ouais, c'est trop bien. Et du coup, la question qu'on pose toujours dans 20 ans d'âge, c'est est-ce que t'attendais d'avoir 20 ans? Est-ce que ça a une signification particulière pour toi, avoir 20 ans?
Alors moi j'ai toujours eu un rapport un peu particulier à l'âge parce qu'on me dit très souvent que j'ai l'air très jeune, que je fais très jeune. On s'étonne toujours de l'âge que j'ai, on me donne toujours un âge inférieur à celui que j'ai. Enfin, par exemple, une fois j'étais en première année d'études supérieures et quelqu'un m'a demandé comment ça se passait la cinquième. Je l'ai mal pris.
Ah ouais.
Ouais. Et encore aujourd'hui, ce qui revient très souvent quand on me parle typiquement du roman, c'est « Oh là là, mais t'es jeune, tu fais jeune, t'as pas la tête de quelqu'un qui écrit ». Et je suis là, oui, bon.
Et qu'est-ce que ça te fait, toi? Est-ce que c'est un truc qui te booste ou c'est un truc qui te gêne?
Quand j'étais plus jeune, ça me gênait beaucoup, ça me frustrait beaucoup. En plus, enfin, j'ai sauté une classe et je suis de fin d'année, donc j'avais souvent un an et demi de moins... Que les gens autour de moi, donc j'étais vraiment toujours la plus petite, et moi je le voyais comme une tentative inconsciente, hein, mais de m'inférioriser, et je me sentais en tout cas toujours en retard, alors que en même temps dans ma tête, je serais pas du tout dans le retard, je me sentais pas plus jeune, et j'ai toujours eu tendance à vouloir vouloir fréquenter des gens plus âgés que moi. Moi je voulais être amie avec les grandes sœurs de mes amis, je voulais être amie avec les profs, je voulais parler avec les adultes à table, et je me faisais toujours renvoyer à mon âge en mode « Ah non, mais Capucine, t'as que 12 ans, t'as que 15 ans, t'as que 18 ans ». Tout ça pour dire que j'attendais les 18 ans avec beaucoup beaucoup d'impatience, parce que pour moi c'était vraiment très important d'avoir enfin ce statut de majeur, d'autant plus que je vivais déjà seule à l'époque, et que vraiment, vivre seule en étant mineure, c'est un cauchemar administratif, on peut rien faire, on peut signer aucun papier, c'était un peu relou. Et puis j'étais déjà en études supérieures, donc il y avait tous mes amis qui pouvaient...
Parce que t'es partie chez toi à quel âge?
Ouais, je suis partie jeune, en fait, je suis partie à la fin de la première, donc je venais d'avoir 16 ans. Et donc j'ai vécu pendant 2 ans mineure avec tous mes amis qui pouvaient déjà un peu sortir, aller en boîte et tout, et moi j'étais encore mineure. Et ouais, je suis partie très jeune parce que justement j'ai toujours été assez indépendante, assez autonome, et j'avais vraiment envie de prendre mon envol, d'être indépendante, ouais. Et donc les 18 ans c'était un gros cap, et à côté de ça, les 20 ans finalement je les ai pas tellement vus arriver. Parce que déjà, bon, il y a eu le confinement, je sais pas si t'as remarqué, il y a un truc qui s'est passé ce printemps. Et voilà, du coup, c'est vrai que l'anniversaire, je l'ai un peu zappé, et je me suis retrouvée un mois avant en mode « Ah oui, c'est vrai qu'il y a le 2 qui va arriver là, je vais avoir 20 ans ». Et puis finalement, bon, j'ai pu le fêter, mais en famille, parce que j'ai pas pu faire de grosses fêtes avec des amis, donc c'était super avec ma famille. Mais c'est vrai que voilà, quand on pense aux 20 ans, on se dit grosses fêtes. Bah, j'ai pas finalement pas pu en avoir parce que voilà, il faut être responsable et c'est pas une bonne idée de faire des fêtes à 50 personnes. Et donc ouais, je pense que je l'ai moins attendu que les 18 ans. Mais c'est sûr que ça fait un vrai truc.
Parce ouais. que, ouais. Tu te sens que ça te donne une sorte de légitimité
ouais.
à ce.
Ouais, bah déjà, 20 ans, bon, bah, c'est, très, enfin, c'est hyper basique à dire, mais tu rentres dans la vingtaine, et à la vingtaine, déjà, t'es un peu plus autonome. Enfin, on connaît des gens qui ont la vingtaine qui font des trucs. Donc, déjà, t'as un petit boost de légitimité. Et puis, bah, d'un coup, tu te rends compte que t'as vraiment quitté l'adolescence, que ça y est, il y a des questions qui se posent à toi qui se posaient pas avant.
Et quel genre de questions, par exemple ?
Bah, c'est les questions très. Des questions que je me posais déjà, mais que je me suis posée avec encore plus d'urgence, encore plus de profondeur. Typiquement, bah, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Qui tu es ? Où est-ce que tu en es par rapport à tes relations, par rapport à ta famille ? Quel chemin tu as parcouru en 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Est-ce que je suis la personne que j'imaginais être à 20 ans quand j'étais petite ? Parce que moi, quand j'étais petite, pour moi, 20 ans, j'allais être adulte avec une maison, un métier.
Bien sûr.
Non, voilà, non, finalement, non. Et donc voilà, c'était un peu une espèce de bilan d'un coup où je me suis dit ah ouais, j'ai 20 ans. Et puis en plus, ça coïncidait vraiment avec la sortie du livre, parce que le livre est sorti 2 ou 3 semaines après mes 20 ans, donc ça a un peu marqué un gros cap, et ça va faire très cliché, mais ma vie a un peu changé depuis.
Mais j'imagine. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du coup de ce process à la fois d'écriture, à partir de quel moment tu te dis je vais écrire un bouquin ? Ouais. Et à partir de quel moment tu te dis, je vais l'envoyer à des maisons d'édition ?
Ouais, ah bah c'est un gros truc. Hein. Moi, j'ai toujours adoré lire. Ça a été un vrai refuge à la lecture, notamment parce que j'avais un peu du mal avec les enfants de mon âge, que j'ai un peu longtemps été là sans amis. Donc, lire, c'était vraiment mon échappatoire. Et l'écriture est très vite venue, vraiment, même quand j'étais toute petite et que je savais encore faire que des lettres. J'écrivais dans des cahiers entiers juste des suites de lettres parce que je trouvais ça trop stylé. Après, voilà. Quand
donc, j'étais... même le geste d'écrire.
Ouais, le geste d'écrire me plaisait beaucoup. Et après, quand j'ai été au collège, j'ai commencé à écrire des trucs. Je faisais un peu des réécritures de contes de fées, des pièces de théâtre. Après. J'ai commencé à écrire des trucs un peu plus denses, ce que je commençais à appeler des romans. J'ai notamment fait un plagiat total de Nos Salles Contraires de John Green. Voilà, moi je trouvais ça vraiment totalement innovant, hyper nouveau. Après, j'ai fait un nouveau plagiat de 13 Reasons Why.
Bien sûr.
Voilà. Et puis non, après j'ai commencé vraiment à me plonger dans d'autres projets et vraiment j'écrivais beaucoup. J'ai fini comme ça 3-4 romans. Mais en fait, je sentais qu'ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas aboutis, ils n'étaient pas prêts pour être publiés. Genre, j'aimais bien les faire lire à mes amis, mais je sentais que voilà, ça n'allait pas passer le cap de la publication.
Et c'était des romans. Est-ce que tu écris sur ce que tu connais ? Est-ce que c'est des histoires que tu inventes de toutes pièces ? Est-ce qu'on n'écrit pas toujours un peu sur ce qu'on connaît ?
Oui, bah bien sûr, c'est la grande question. Bien sûr, à chaque fois, il y avait totalement des thèmes qui me touchaient beaucoup, qui revenaient tout le temps. L'amitié, la famille, le deuil, l'espoir, l'ambition, enfin, tous les trucs comme ça revenait tout le temps. Et à chaque fois, il y avait bien sûr une part d'autobiographique. À un moment, j'ai même écrit un truc qui était honnêtement, globalement, une autobiographie. À 17 ans, oui, j'avais des choses à raconter.
Bah ouais,
et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis finalement, j'en ai écrit un nouveau. Et là, je me suis dit, celui-là, je peux décemment l'envoyer à des éditeurs sans avoir honte. Et donc, j'ai fait ce qu'il faut faire, à savoir imprimer le roman sur papier, le faire relier, écrire une petite lettre aux éditeurs et l'envoyer par la poste en croisant les doigts, tout en sachant que les chances d'être retenu sont vraiment microscopiques, parce qu'il me semble que c'est genre un manuscrit sur 6000 qui est retenu comme ça par la poste, donc vraiment, il faut se lever tôt pour y arriver. Et effectivement, j'ai reçu plein de refus, hein, Gallimard, Grasset, coucou. Les refus, tu sais, la lettre type. Mais voilà, je m'y attendais, donc j'étais pas dévastée. Je savais très bien que j'avais 18 ans à l'époque, donc je savais très bien que c'était vraiment très improbable que ça marche du premier coup comme ça. Et puis, j'ai reçu.
Quand tu l'as envoyé la première fois, t'avais 18 ans ?
Ouais.
Donc
ouais.
Tu l'as écrit à.
Non, c'est ça, c'était un autre roman que celui-ci.
Ça, c'était
sorti,
un autre
en fait, ouais.
D'accord.
Ouais, un autre roman. Et j'ai reçu un mail de Bellefond. D'une personne qui allait devenir mon éditrice, mais je ne le savais pas encore, et qui me disait qu'elle avait lu mon roman, qu'elle en avait pensé du bien, qu'elle pensait pas le publier, mais qu'elle voulait quand même me rencontrer. Et donc là, on s'est rencontrés, et je pense qu'il y avait un petit coup de cœur amical entre nous deux. Et là, elle m'a dit, écoute, si jamais t'écris des trucs dans les prochaines années, envoie-les-moi, et puis moi, je les lirai avec une attention particulière. Et en se quittant, elle m'a dit, je suis sûre que d'ici 4 ou 5 ans, tu seras publié chez nous. Et en fait, au bout de 2 mois, je lui ai envoyé les 50 premières pages de ce qui allait devenir Les Déviantes, mon roman. Et là, en fait, elle m'a répondu au bout de 2 semaines, on publie, bingo. Donc là, ça a été vraiment la sincère émotionnelle, la joie immense. J'avais du mal à y croire, d'autant plus que le roman n'était même pas fini. Donc j'ai fini le roman. Je l'ai écrit en tout, je pense que j'ai eu 4 ou 5 mois d'écriture. Donc je l'ai fini en novembre, donc ouais, novembre à peu près il y a un an. Et là, elle était toujours d'accord pour publier. et donc là, l'itinéraire classique de la correction, de la publication du roman a continué, donc avec les différentes corrections, la mise en page, les décisions autour de la couverture, du résumé. Et puis après, paf, il y a eu le confinement.
D'accord.
Et là, du coup, toutes les étapes traditionnelles pour un roman qui sort en rentrée littéraire ont été un peu malmenées. D'habitude, il y a des réunions, des présentations, notamment avec les libraires à Paris. Et puis, il y a une tournée en librairie tout l'été. Et là, évidemment, bah, tout a été annulé. Et c'est sûr que j'étais un peu déçue. Enfin, il y a eu 3 jours, vraiment en mars, où je me disais « Pourquoi moi ? Le monde me déteste, c'est nul, c'est horrible. » Et puis après, je me suis raisonnée en me disant que bah, c'était tout le monde dans le même panier, que là, j'étais pas juste la seule à avoir ma promo annulée, que déjà, c'était fantastique de sortir un roman, et ça, vraiment, je le pense toujours, et que c'est le premier, et ça se trouve, il y en aura plein d'autres, et que je pourrais rattraper
bien
ça
sûr,
les prochaines fois. Et donc, très vite, je me suis remise dans un mood très positif, à juste savourer ce qui venait, et bah, petit à petit, il y a eu voilà, les premiers retours qui sont venus, les premières critiques, la couverture, l'excitation autour du roman. Puis le roman est sorti, le roman était dans les librairies, en vrai, j'ai vérifié. Et puis voilà, la promo, les interviews qui ont commencé. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est vraiment, pour reprendre une formule extrêmement cliché, c'était vraiment un conte de fées. Et d'un bout à l'autre, j'ai été hyper soutenue par mes amis, hyper accompagnée par tout le monde à Bellefond. J'ai une super équipe qui m'a constamment soutenue, appuyée, promue. Et non, je me sens très, très, très chanceuse. Et en même temps, bah, je sais que j'ai bossé pour. Hein, ça ne m'est pas arrivé par hasard tout cuit dans la bouche. Mais voilà, c'était un mélange de travail, de chance, d'opportunité. Voilà.
Est-ce que du coup, tu peux nous pitcher un petit peu ton roman?
Bien sûr.
Donner envie.
On est là pour la promo. Alors, donc Les Déviantes. Les Déviantes, c'est avant tout l'histoire d'Anastasia, qui est une jeune femme de 29 ans. Et alors, elle, dans la vie, elle a tout. Elle a fait HEC, elle a un super taf qui paye super bien, genre du conseil en stratégie, hyper prestigieux, hyper respecté. Et elle est très sûre d'elle dans la vie, elle avance, elle se pose pas de questions. Jusqu'à ce qu'un jour, on lui diagnostique un cancer du sein. Donc évidemment, à 29 ans, on s'attend pas à ça. D'autant plus que son cancer est assez agressif et qu'elle se retrouve vraiment, vraiment face à la possibilité d'en mourir. Et là, en fait, tout s'effondre pour elle et elle se retrouve bloquée chez elle, elle n'arrive plus à sortir, elle a arrêté de travailler. Et cette annonce, qui est un peu une déflagration, enfin même carrément une déflagration dans un premier temps, va petit à petit devenir pour elle l'occasion de se poser des questions sur ce qu'elle a fait de sa vie, sur le succès qu'elle pense avoir obtenu et le succès à côté duquel elle est peut-être passée. Et voilà, elle va se demander finalement qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il lui reste maintenant qu'elle a perdu son taf. Bah, plus grand-chose parce qu'elle a un peu perdu de vue tout le reste. Et donc, Les Déviantes, ça va être l'histoire de comment Anastasia va petit à petit s'ouvrir à d'autres, notamment à renouer avec sa meilleure amie, renouer avec sa petite sœur, qui en fait traverse également toutes les deux des moments de remise en question. Donc la meilleure amie Iris, parce qu'elle est en couple avec un mec parfait, enfin vraiment ils sont ensemble depuis 12 ans, c'est l'amour fou, c'est le petit couple que tout le monde adore, qui donne foi en l'amour, ils sont fiancés, ça va super bien, sauf que elle, Iris, bah, elle s'emmerde, elle se fait même carrément chier, et elle culpabilise parce que bah, elle a tout pour elle, elle est le meilleur copain du monde, et pourtant ça lui convient pas. Et la petite sœur, Lolita, elle va avoir son bac, et elle est promise à des études brillantes comme celle de sa sœur, sauf que bah, elle se rend compte que c'est pas ce dont elle a envie. Elle, son truc serait plutôt de partir faire le tour du monde, le temps de trouver des réponses à ses questions. Et donc voilà, ces 3 femmes qui sont à des moments différents de leur vie, qui traversent des épreuves différentes, vont finalement se réunir autour des mêmes questions qu'elles se posent, et se soutenir, et essayer de comprendre ensemble comment elles peuvent se libérer, comment elles peuvent s'émanciper, comment elles peuvent échapper à toutes les injonctions qu'elles subissent depuis toujours sur ce que c'est être quelqu'un qui a du succès, sur ce que c'est d'être une bonne élève, une gentille petite fille, une bonne copine, et voir si c'est possible de dévier un peu.
J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez générationnel,
ouais,
dévier de sa vie et de réfléchir au sens de sa vie que les générations antérieures avaient moins peut-être le luxe de faire. Est-ce que ça ça te parle
ouais,
en tant que...
Ouais, ouais. Bah alors, pour faire des grosses généralités sociologiques, on va dire que ma génération, là, les gens qui ont en gros 25, 20, 15 ans, on est dans un monde un peu chamboulé. Il y a du chômage, il y a le changement climatique, il y a maintenant le corona. Et du coup, c'est vrai que les cadres qui s'appliquaient avant, les schémas, les structures qui étaient celles de nos parents, nos grands-parents, bah, ça ne marche plus trop, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a élevés en nous disant « fais une grande école, tu auras un bon taf et ta vie sera super ». Et on se rend compte que bah, pas forcément, parce que déjà, les universités, les grandes écoles, c'est un peu la galère. Après, on voit qu'il y a plein de jeunes diplômés qui sont au chômage. Et puis, on voit plein de gens qui, à 30 ans, démissionnent de leur CDI et qui vont élever des chèvres dans le Larzac. Donc, bon, je pense que ça pose un peu question. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé dans des conversations avec mes amis, où on ne se retrouve pas dans ces modèles-là. Et on voit la vie de nos parents. Et on n'est pas forcément hyper à l'aise avec tout ça. Et en tout cas, moi, quand j'ai écrit Les Déviantes, c'était vraiment des questions qui étaient hyper présentes. Parce que, bah, du coup, pour en revenir un peu à ma vie, moi, voilà, j'étais une très bonne élève, première de classe, machin, machin. Et tout le monde avait un peu dans l'idée que j'allais avoir un parcours hyper, hyper classique, que j'allais faire une grande école, tout ça. Et effectivement, je suis allée à Sciences Po. Et j'y étais très bien, mais je me suis rendu compte, au moment où j'écrivais Les Déviantes, en fait, j'étais en troisième année à l'étranger. Donc, un peu hors de ce cadre. J'étais à Montréal, dans une toute autre culture, tout autre univers. Et d'un coup, j'avais du temps pour me poser des questions et me dire « Mais où est-ce que je vais, en fait ?» Et tout le monde autour de moi me disait « Ouais, t'es une bonne élève, il faut que tu tentes absolument des trucs hyper prestigieux, genre il faut que tu tentes l'ENA, il faut que tu tentes HEC, il faut que tu fasses tout ça. » Et je me rendais compte que finalement, oui, je pouvais tenter. Je sais pas si je l'aurais eu, mais j'aurais pu tenter. Mais ça me parlait pas, quoi. C'était pas moi et je me projetais pas du tout dans une vie comme ça. Et c'est compliqué, c'est un peu douloureux comme questionnement parce que...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tes amis, ils partagent tes questions, mais ils n'ont pas de réponse. Et tes parents, ils ne comprennent pas trop, même que tu te poses la question, ils n'ont pas plus de réponse. Et en ça, c'est vraiment un truc hyper, hyper générationnel. Et moi, en tout cas, en écrivant le roman, j'avais des conversations avec des amis qui vraiment étaient totalement en phase avec ce que j'écrivais. Et moi-même, en écrivant, je trouvais des réponses. Enfin, en tout cas, je mettais mes questions dedans. Il y avait des débuts de réponses qui émergeaient. Et c'était hyper fort comme expérience d'avoir ce roman qui avançait en même temps que moi, j'évoluais dans ma tête, même par exemple avec l'exemple d'Iris et de son couple parfait, mais où elle s'ennuie, bah, ça coïncidait aussi avec des moments dans ma vie où je me disais, par rapport à mes amitiés, par rapport à mes relations amoureuses, mais de quoi j'ai envie. Effectivement, là, je suis dans une situation où bah, c'est stable et où a priori tout va bien, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est ce que je veux vouloir? Est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est ce dont on m'a convaincue que je voulais? Et en ça, j'espère que j'ai touché juste et que le roman touchera beaucoup de personnes de mon âge. Et des retours que j'ai eus, c'est le cas. Il y a beaucoup de jeunes en fait, comme moi qui ont lu le roman et qui voyaient en Anastasia la personne qui pourrait devenir et qu'ils n'ont peut-être pas très envie de devenir. Ou au contraire, voilà, enfin, tout est possible. Mais c'était assez intéressant de voir comment le roman touchait différemment certaines générations. Des femmes de l'âge de 18 ans, des femmes de l'âge de 29 ans, des personnes encore plus âgées. Et chacune avait une réponse très forte vis-à-vis de ce thème-là, des attentes sociales, de l'insertion dans la société, du job, des enfants. Et voilà, dans le roman, j'ai tenté à ma mesure de critiquer un peu ça, de critiquer l'idée qu'on se fait en France de la réussite, l'idée du couple parfait, l'idée de la famille, des enfants, et montrer que bah, c'est des modèles. Et ça peut tout à fait être une super vie. Enfin, voilà, si ton kiff, c'est d'avoir un CDI, une famille, des enfants, et puis à côté de partir en week-end et tout, bah, c'est trop cool. Et vraiment, fais ça. Mais si c'est pas ça, si t'es pas entre guillemets dans la norme, bah c'est tout aussi cool et tu peux encore, enfin tu peux même totalement inventer ta vie et c'est pas grave si tu t'attends un peu et si tu te perds et si t'y arrives pas. Le tout c'est de continuer à te poser des questions, c'est de pas te satisfaire et t'endormir en te disant bon, Je ne vais pas trop me poser de questions, on va voir comment ça se passe et puis on verra plus tard. Sauf que plus tard, c'est souvent trop tard. Et waouh, c'était profond ce que je viens de dire. Oui, je devrais être romancière. Mais voilà, plus tard, c'est souvent trop tard. Et moi, oui, j'ai que 20 ans, mais je me pose depuis très longtemps la question de mon avenir, de ce que je vais être, du sens de la vie, tout ça. Et
est-ce que tu arrives à te projeter? Est-ce que tu penses que c'est possible de se projeter?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que, regarde, il y a un an, j'avais pas du tout la même vie qu'aujourd'hui, tu vois. J'arrivais au Canada, ma petite année d'études à l'étranger, voilà, j'avais une petite idée de roman que je commençais à écrire, et puis un an plus tard, bam, le roman est sorti, enfin, j'aurais jamais pu l'inventer. Et de manière générale, dans la vie, tu te rends compte que t'aurais jamais pu inventer tes rencontres, t'aurais jamais pu inventer tes rencontres professionnelles, tes projets. Donc, ce que je pense, c'est que t'as des valeurs, t'as des préférences, t'as des objectifs, et t'essayes d'orienter ta vie en fonction de ça. Après, je pense qu'il faut aussi savoir se laisser surprendre et pas avoir peur d'improviser, de changer de plan, de dévier. Et que moi, une des petites leçons de vie que j'ai humblement retenues à 20 ans, c'est que, tu sauras jamais si tu prends la bonne ou la mauvaise décision, et je pense même pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises décisions. Les vrais reconnaîtront les petits trèfles. Mais par contre, je pense que le seul moyen de pas regretter tes décisions, c'est de prendre tes décisions de façon honnête par rapport à toi-même et avec, comment dire, en assumant clairement le fait que c'est ta décision et tant pis si c'est la bonne ou la mauvaise. Parce que après, même si après coup tu t'es tenté de regretter, tu sauras que t'as pris ta décision de façon hyper sincère et hyper vraie et fidèle à qui t'étais à ce moment-là. Et du coup, tu peux pas vraiment regretter les décisions que t'as prises en étant honnête à toi-même. Même si c'est pas la décision que les gens autour de toi auraient voulu que tu prennes. Mmh. Et voilà, en tout cas, je sais pas de quoi mon avenir sera fait. J'espère qu'il y aura des romans, des gens cool et voilà. Mais peut-être pas. Et en fait, si ça me correspond pas, je ferai autre chose et ce sera pas grave. Et si... Enfin voilà, c'est... En tout cas, moi, la leçon que je retire des déviantes et dont j'espère qu'elle touchera les gens, c'est fais comme tu le sens, c'est ok, c'est légitime. Et puis, tu retomberas toujours sur tes pattes si tu restes fidèle à toi-même.
Et moi, ce qui m'a vraiment choquée dès les premières pages de ton bouquin, c'est que t'écris du point de vue d'Anastasia.
C'est un point de vue interne. Ouais.
C'est ça. Une femme qui a 29 ans et toi, t'en as 20. Ouais. Et comment t'arrives à te projeter autant dans tes personnages? Comment tu construis un personnage de roman? Toi qui n'as jamais...
Je n'ai jamais eu 29 ans.
T'as jamais eu 29 ans.
Je peux le dire.
jamais eu de travail et l'avoir quitté.
J'ai pas fait, je sais. Ça, c'est la magie du roman, hein, c'est la magie des écrivains. C'est d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas soi, parce que si on pouvait écrire que sur soi, ça deviendrait très vite... très ennuyant. Après, voilà, c'est un vrai travail et c'est ce qui permet aussi, je pense, d'avoir un roman qui se tient, c'est de vraiment construire un personnage. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je laisse les personnages vivre un peu dans ma tête avant de commencer à écrire. Et alors, ça va paraître très, très abstrait, limite un peu New Age, mais j'essaye de les projeter constamment dans des situations. Par exemple, je sais pas, je vais être... dans une conversation avec une amie, je me dirais « Ah, tel personnage, il dirait plutôt ça. » Je vais être, je sais pas, au restaurant, je me dirais « Ah, tel personnage, il mangerait plutôt ça. » C'est essayer un peu de le confronter à des situations du réel, de l'éprouver un peu, de lui inventer des traits de personnalité au fur et à mesure. Et comme ça, après, quand on se met à écrire, finalement, le personnage existe déjà. Et on peut juste le laisser exister. Et comme ça, on se fait un peu surprendre par sa réaction, parfois. Et on sait plein de choses sur ce personnage. Des choses qui, d'ailleurs, sont pas forcément dans le roman. Mais il y a des choses que je sais sur Anastasia qui, finalement, ne sont pas dans le roman. Mais pour autant, elle l'influence quand même, je pense. On va dire qu'elle a toute une vie en dehors du roman, dans ma tête. et donc, avec le temps, avec cette espèce d'exercice mental, on arrive à donner une personnalité au personnage. Et en tout cas, il me semble que c'est comme ça que j'ai fait pour mes personnages. Et puis après, évidemment qu'il y a une dimension autobiographique, dans le sens où chacun de mes personnages, c'est moi qui les ai inventés, donc évidemment qu'ils ont une petite part de moi, ils sortent pas de nulle part. Chacun des personnages partage des petits traits de personnalité avec moi, mais aucun n'est moi. Mmh. C'est la magie du roman, de rendre des personnages crédibles alors qu'ils n'existent pas, et d'arriver surtout à faire en sorte qu'ils touchent des lecteurs, même et surtout des lecteurs avec qui ils ont rien en commun. Mmh. Et j'espère que c'est le cas.
franchement, moi, je me suis beaucoup projetée. Enfin, je trouve que direct, tu rentres dedans et tu vois exactement ce qu'elle veut dire. Bah, et t'as des phrases assez courtes avec...
Ça, c'est dans ma façon d'écrire aussi. C'est un truc qui est assez important pour moi. En fait, j'ai une façon d'écrire où c'est un truc qui peut parfois perturber certaines personnes, c'est que je vais à la ligne après chaque phrase. Alors déjà, c'est voulu, c'est conscient. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas juste dérapé sur ma touche Enter. En fait, c'est une façon pour moi d'entrer dans le monologue intérieur du personnage et de suivre un peu le fil de ses pensées. Donc il y a des moments où vraiment c'est toute petite phrase un peu saccadée parce que la personne, enfin le personnage est un peu paniqué ou alors est stressé ou alors est en train de rêver, je sais pas. Et donc là voilà, ça va aller très vite, on enchaîne, tac 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 tac. Après il y a des passages qui vont être plus méditatifs avec des longues phrases, avec des virgules bien rythmées. Après des moments, je sais pas, où c'est hyper intense, il y a des gros paragraphes. Et en tout cas pour moi c'est une façon de rentrer en tête du personnage et il me semble, je crois que c'est ce qui aide aussi les lecteurs à s'identifier au personnage, c'est que vraiment on est dans leur tête et parfois ça
oui,
peut
c'est
être...
un vrai flux de conscience.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je suis Virginia Woolf de 2020.
Et du coup, c'est intéressant aussi ce processus d'écriture. Combien de temps ça te prend? Parce que tu m'as dit donc, que tu rencontres l'éditrice et ensuite tu ponds 50 pages en 2 mois.
Oui.
comment ça se passe ton processus d'écriture? Alors, tu as les personnages en tête d'abord et ensuite tu construis une histoire ou c'est... une intrigue et tu y incrustes des personnages?
Moi, j'ai vraiment les personnages d'abord. En fait, j'avais cette idée d'une femme qui avait un cancer très jeune et qui se posait des questions sur sa vie. Mais après, voilà, j'ai besoin d'avoir des personnages qui, finalement, créent l'intrigue au fur et à mesure. Le fait d'avoir ces deux personnages qui ont ces personnalités respectives, bah, ça va créer tel arc, etc. Donc voilà, l'histoire naît au fur et à mesure. J'ai pas de plan hyper détaillé dans le sens où je planifie pas toutes les scènes. Par contre, j'ai un début et j'ai une fin. Je pense que c'est important d'avoir une fin, pas forcément hyper détaillée avec vraiment tous les éléments de résolution, mais quand on écrit, c'est important de savoir vers où on va, pour pas trop se perdre, pour pas partir dans des intrigues parallèles. Donc voilà, moi, dès le début, j'avais la situation initiale et puis une idée de fin qui, finalement, a un petit peu changé, mais c'est resté le même esprit. Et puis après, pour le reste, je me mets des petits points en mode faudra faire telle scène à un moment, faudra faire telle scène à un moment, et donc comme ça j'ai un document Word qui évolue petit à petit avec de plus en plus d'idées de scènes, d'idées de dialogues. Et pour ma routine d'écriture, si on peut dire ça, vraiment un truc que j'ai acquis, que j'ai travaillé et qui m'a beaucoup beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'écrire chaque jour, vraiment chaque jour. Même
tu prends
si
une plage horaire?
Ouais, alors, après ça change selon les périodes, selon que je sais pas, j'ai un stage, j'ai des cours, mais en général c'est tôt le matin ou tard le soir. Et vraiment, j'ai besoin d'avoir une fois par jour ce moment-là pour l'écriture, sans distraction. Après, ça peut vraiment être un quart d'heure et vraiment, je peux écrire n'importe quoi. Enfin, je peux écrire de la merde. Mais au moins, j'aurai écrit. Au moins, j'aurai écrit. Parfois, ça va être 2 heures de session hyper productive où je ponds 3000 mots d'un coup. C'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Et je pense que c'est important comme ça de discipliner un peu ton cerveau avec le fait d'y retourner tous les jours. Et en fait, il y a un stade où c'est plus un effort. Après, ça n'a jamais été une corvée pour moi d'écrire, hein. Ça a toujours été un plaisir, mais c'est vrai que ça demande quand même un effort d'aller s'y mettre. Et au bout d'un certain moment, ça devient vraiment un réflexe et un besoin. Enfin, moi, vraiment, si j'écris pas, je ne suis pas bien. J'ai le sentiment d'avoir pas raté ma journée. Enfin, ça m'arrive bien sûr de ne pas écrire de temps en temps, mais j'ai quand même voilà, ce besoin qui fait qu'effectivement, ça me permet d'écrire beaucoup. Et après, ce que je fais aussi, c'est que je ne me force jamais à écrire une scène qui m'embête. Je ne me force jamais, même à. Si je n'ai pas envie d'écrire mon roman. Ce jour-là, bah, j'écris autre chose, j'écris un article, j'écris une nouvelle, j'écris un poème. Voilà, j'essaye de me laisser aussi libre que possible là-dessus, et ça marche plutôt bien, pour moi en tout cas.
Et c'est quoi la dernière fois que t'as dévié?
Oh là là, mais on dévie un peu tous les jours, non?
Bah, j'espère. Ça veut dire que tu te poses des questions.
Non, ouais, bah, y en a souvent. Bah, typiquement, tu vois, par rapport à Sciences Po, je me suis beaucoup posé la question de quel master je devrais faire. Est-ce qu'il faut que je fasse un master bien professionnalisant? Est-ce qu'il faut que je fasse complètement autre chose, que je parte de Sciences Po? Et moi, je me dirigeais beaucoup vers le journalisme. Je pensais que c'était vraiment ma vocation. En fait, j'ai fait un stage en journalisme et il y a des trucs qui m'ont plu, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout le milieu dans lequel je voulais exercer. Enfin, c'était un grand journal parisien. Voilà, c'était vraiment genre le stage de journalisme en or, et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas et que moi, si je faisais du journalisme, j'aimerais plutôt être dans un truc un peu plus cool, genre Mademoiselle. Non, mais
elle
voilà.
Glisse sa lettre de motivation.
Glisse, lettre, voilà. Non, mais voilà, et que en tout cas, je me reconnaissais pas trop dans ce journalisme, on va dire, un peu plus institutionnel. Et donc, bah, la réflexion de ma troisième année, ça a été de renoncer un peu à faire des études de journalisme classique et de faire autre chose. Même si vraiment autour de moi, les gens étaient hyper surpris parce que ça faisait 10 ans que je disais je serai journaliste quand je serai plus grande. Et d'un coup, je disais, mais en fait, non, pas l'école de journalisme. Et c'est sûr que bah, c'était un peu flippant de me dire bah, peut-être que je me ferme une porte là-dessus. Et en même temps, je suis allée vers un autre master qui me paraissait plus me correspondre, un master en communication, médias et industrie créative, parce que du coup, ça me permet de rester un peu ouverte à tous les mondes qui me plaisent, à l'édition, au journalisme, au cinéma, aux jeux vidéo. Et de prendre le temps, encore une fois, de trouver des réponses et de me laisser un peu guider là-dessus. Donc après, voilà, ça reste une déviance minime, hein, parce que je reste dans un master, je reste dans des études, je reste à Sciences Po. Mais en tout cas, à mon échelle, c'était un vrai truc, quoi, de me dire, bon, bah, je sens que journalisme, oui, ça pourrait me convenir, hein, c'était pas du tout l'enfer, il y avait plein de trucs cool, mais c'est pas moi, et je vais y aller. Et je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu perplexes autour de moi, en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tire une balle dans le pied, elle aurait totalement eu les moyens de le faire, et elle le fait pas. Et moi, j'étais assez sûre de mon coup, et je reste assez sûre de mon coup, même si je sais pas ce qui va venir. Je pense que, à ma petite échelle, c'était déjà une jolie déviance.
Et c'est voilà. Marrant ce titre, les déviantes,
ouais.
Parce que c'est
oui,
ça
mais
semble, il y a un côté.
C'est ça. Ouais, ouais. En fait, il y a tout un jeu autour du titre, dans le sens où quand on dit de quelqu'un qui est déviant, c'est pas très gentil en général.
C'est pas super sympa.
C'est pas hyper sympa. Voilà, c'est associé à des choses très 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 péjoratives, très négatives. Et moi, ce que j'ai essayé humblement de faire dans le roman, c'est de donner une espèce de deuxième sens au mot de déviation, de déviance. Et
mais ça aussi, c'est très générationnel de se réapproprier des termes.
Carrément. Bah, on connaît. Et de voir en fait dans la déviance une forme d'audace plus qu'une forme de transgression, ou alors de voir quelque chose de noble et de beau et d'admirable dans le fait de transgresser, de désobéir. Et puis aussi le titre, il y a un petit côté un peu ironique dans le sens où le fait de parler de déviation, ça pose la question de jusqu'à où on peut dévier, est-ce que c'est vraiment possible de dévier, est-ce qu'on sera accepté quand on est dévié. C'est des choses contre lesquelles combattent mes héroïnes, savoir déjà comment elles vont être perçues une fois qu'elles ont dévié, est-ce qu'elles peuvent vraiment dévier, jusqu'à où elles peuvent dévier. Et donc voilà, c'est un titre qui peut paraître provocateur, mais qui illustre une réalité qui est à la fois très douce, très belle, le fait de se libérer, de voir la déviation comme un moment d'affirmation de soi hyper positif, et en même temps un truc un peu, pas désabusé, mais peut-être un peu plus nuancé, en se disant, mais où est vraiment la déviation? Est-ce que c'est possible? Jusqu'à où et comment?
Et qu'est-ce que ça fait d'être une autrice, auteure, je sais pas comment tu...
Autrice, j'aime bien.
Autrice
j'aime bien.
Qu'est-ce que ça fait d'être une autrice publiée dans ton entourage? Est-ce que tes relations ont changé? Est-ce que tu le sens?
Oui. Alors, mes amis proches, finalement, ils savaient que j'écrivais. Et donc, ça n'a pas été une révélation pour eux, dans le sens où, évidemment, ils étaient très surpris, très heureux. Mais ça leur a pas paru déconnant par rapport à qui j'étais. Ils étaient très très fiers, hyper enthousiastes et tout, mais finalement leur regard sur moi a pas tellement changé. Et ça aussi, c'était cool de ne pas devenir d'un coup la bête de foire. Voilà, j'ai resté Capucine avec ce truc nouveau et très cool qui m'était arrivé, mais finalement c'était toujours moi. Après, les gens que je connais, enfin dont j'étais un peu moins proche, là j'ai vraiment senti un vrai truc en mode, oh là là, maintenant c'est une écrivaine, peut-être qu'elle est connue, qu'elle a de l'argent. Alors non, je ne suis pas devenue milliardaire, donc désolée. Hein. Mais voilà, et puis ben, même des personnes qui commençaient un peu à m'écrire en mode « Ouais, t'aurais pas des contacts, t'aurais pas des conseils, est-ce que tu peux relire mon manuscrit ?» Après, voilà, moi, je le prends avec bienveillance, je donne les conseils qu'on me demande, mais après, voilà, je reste lucide. Après, ce qui a été intéressant aussi, ça a été par rapport à ma famille. Les relations ont beaucoup changé. Dans le sens où ça faisait déjà quelques années que je vivais seule, mais j'étais toujours quand même pas vraiment perçue comme une adulte. J'étais encore un peu la petite Capucine, encore une fois.
Est-ce que t'es une petite dernière ou...
Non, je suis l'aînée pourtant. Mais justement, je pense que j'ai pris d'autant plus les attentes de mes parents. J'étais vraiment l'objet des attentions. Et ils avaient pas, je pense, pas très envie de me voir trop grandir trop vite. Mmh. Et ils aimaient bien que comme tous les parents, hein, ils aimaient bien l'idée de que je sois encore avec eux, et je suis partie très tôt. Et donc voilà, il y avait toujours un peu cette petite tension-là entre elle est loin, mais en même temps c'est encore notre fille, c'est une ado, elle est jeune. Et là, le fait d'avoir publié ce roman finalement par moi-même, parce que vraiment c'est un truc que j'ai fait indépendamment de ma famille, il n'y avait pas mes parents dans mon dos en train de m'applaudir quand j'écrivais, ça a été un peu comme mon premier acte d'adulte indépendante vraiment, et ça a été reconnu comme tel. Ça a été vraiment, t'as fait ton truc par toi-même et c'est toi qui accomplis ça. Et leur regard sur moi a pas mal évolué. Et j'ai senti une forme de fierté que j'avais pas forcément pu percevoir auparavant, dans le sens où bah, ils ont du mal à dire les choses explicitement. Et là, chacun à sa façon me montrait qu'il était fier et c'était nouveau. Genre mon père, il lit pas beaucoup. Je pense qu'il a pas lu de roman en entier depuis Landgrâce 2003. Mais lui, alors son truc, ça a été de vendre le livre. Il en parlait à tout le monde. Il disait, faut le précommander, faut le vendre, il faut en parler. Et donc c'était sa façon à lui de montrer qu'il était fier. Ouais. Et ma mère, typiquement, quand je lui ai envoyé le roman, elle m'a répondu en me faisant la liste des coquilles qu'elle avait repérées, parce que c'était sa façon, elle, de montrer que bah, ça lui tenait à cœur et qu'elle avait fait attention. Et donc voilà, j'ai senti que, de façon générale, dans ma famille, que ce soit ma famille proche, ma famille plus large, j'étais devenue d'un coup une vraie personne, quoi. J'étais déjà avant, mais voilà, j'avais comme une forme de d'indépendance, d'autonomie qui était nouvelle. C'était vraiment très cool.
Donc ouais. Ça te donne envie, j'imagine, de continuer.
Évidemment. Moi, c'est, je le disais tout à l'heure, mais écrire, c'est un besoin, c'est un plaisir. En plus, là, ce qui est incroyable, c'est que j'ai toujours fait lire ce que j'écrivais, mais à des amis. Et là, pour la première fois, je suis lue par des personnes qui ne me connaissent pas, que ce soit des blogueurs, des libraires, des journalistes ou vraiment des inconnus complets. Et c'est hyper puissant. C'est incroyable quand tu reçois un message de quelqu'un vraiment avec qui t'as jamais parlé de ta vie et qui te dit en gros, en substance, je t'ai comprise, j'ai compris ce que t'as voulu écrire, ça m'a touchée. Enfin, honnêtement, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette émotion à travers n'importe quel travail, n'importe quelle création. Mais juste ce sentiment d'avoir réussi à toucher des êtres humains, c'est hyper puissant. Et à chaque fois, ça me...
Oui, parce que tu te mets complètement à nu,
ouais,
en fait.
Mais complètement. En fait, tu prends un morceau de toi que tu mets dans un roman. Et après, tu le lâches dans le monde et tu sais pas ce qui va se passer, comment ça va être reçu. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un accueil hyper, vraiment hyper positif. En tout cas, les gens qui n'ont pas aimé m'ont pas écrit.
Ok, donc t'as eu que des critiques dithyrambiques.
Franchement, en tout cas, de ce que j'ai vu passer, de ce que j'ai reçu.
T'as pas été confrontée aux haters encore ?
Non, j'ai pas eu des haters. Je les attends. Mais non, donc ça a été vraiment hyper, hyper fort et évidemment ça m'a donné envie de continuer. Moi j'ai toujours des projets de romans sur le feu, j'ai toujours cette ambition-là d'arriver peut-être un jour à en vivre. Alors c'est pas facile hein, parce que le monde de l'édition c'est pas forcément l'univers dans lequel il faut vous lancer si vous voulez être riche. Mais voilà, moi j'ai envie d'écrire, j'ai cette flamme-là, cette passion-là et en tout cas, j'ai envie de continuer d'écrire aussi longtemps que possible, tant que les lecteurs sont intéressés par ce que j'ai raconté.
Et t'as déjà été confrontée au syndrome de la page blanche ou c'est un mythe pour toi ?
Alors, je touche du bois, voilà. Mais pour l'instant, non. Parce que justement, j'ai ce côté où si un jour ça veut pas, bah ça veut pas et je fais autre chose en fait. J'ai un blog depuis des années.
Qui s'appelle comment ?
Mademoiselle Bouquine, vous pouvez y aller, c'est très bien, je recommande. Donc là, ce blog, je l'ai créé quand j'avais 13 ans. Et donc, c'est un blog un peu littéraire, culturel, tout ça. Et mine de rien, ça a aussi beaucoup forgé ma plume parce que j'écrivais 2 ou 3 articles par semaine pendant 6 ans et demi. Donc, à force, tu prends quand même une petite habitude. Notamment, ça m'aidait beaucoup quand vraiment il y avait des jours où j'avais pas trop d'idées sur mes romans. Hop, je basculais vers une petite critique et mine de rien, ça me faisait quand même écrire, réfléchir, créer. Et non, j'ai jamais vraiment eu la page blanche. Après, il y a eu évidemment des projets qui n'ont pas abouti, des trucs où finalement ça marchait pas. Mais je le prenais pas comme une tragédie en mode oh là là, je suis un échec. C'était plutôt bon, c'était pas le bon projet au bon moment, c'était pas une idée finalement à creuser. Et puis voilà, je suis passée à autre chose.
Trop bien. Je te le souhaite alors que.
Merci beaucoup.
Pour finir cette interview.
Oui.
Qu'est-ce que tu dirais à l'ado que tu étais ? Quelles leçons t'as appris cette année de tes 20 ans que tu pourrais donner à l'ado que tu étais ?
Alors l'ado que j'étais, moi j'ai eu une adolescence un peu douloureuse. J'ai un peu traversé des moments compliqués de solitude, de harcèlement, etc. Déjà la première chose que je dirais à l'ado que j'ai été, c'est bientôt fini. Ça va passer plus vite que ce que tu crois, vraiment. Et bientôt là. Tout ce qui te rend tellement triste, tout ce qui te pèse, en fait, tu vas te rendre compte que vraiment, c'était rien. Genre là, ces filles qui sont pas gentilles avec toi, mais dans 5 ans, t'en auras rien à faire de ce qu'elles font. Et toi, il y a plein de choses qui t'attendent et Et après, voilà, là je commencerai à pleurer, très, très émue, en mode « ça va aller, tu peux le faire, tu vas voir, les lendemains meilleurs arrivent ». Et voilà, ce sera à peu près la substance de ce que je dirais. C'est « serre les dents, c'est bientôt fini l'adolescence, et continue tes trucs, là, continue de, tes livres, tes pièces de théâtre, tes films, tu vas voir, ça va te mener à des trucs un peu chouettes ».
Ouais, c'est clair. Bravo en tout cas.
Merci beaucoup.
Et merci d'être venue dans 20 ans d'âge. C'était vraiment top.
Merci de m'avoir reçu.
Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcasts et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». À bientôt dans 20 ans d'âge.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.